Va intervenir maintenant Nathalie Machon, qui est enseignante-chercheuse en écologie au Muséum national d'histoire naturelle. Ce matin, elle va nous présenter une communication intitulée « Ce que nous enseigne la comparaison entre deux campagnes d'inventaire de la flore des rues de Paris ». À 130 ans d'intervalle, pardon. Et donc, il va à nouveau être question, je crois, de Valot, Joseph Valot, dont on a parlé lors de la première conférence.
Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, ce travail, je l'ai fait dans le cadre de mon laboratoire et ont largement participé les étudiants qui figurent sur cette diapo, donc Juliette Amara, Alice Amoureau, Mathieu Galland et ma doctorante Mona Omar. Effectivement, c'est un travail qu'on a entrepris il y a peu de temps et dont je vais vous parler tout de suite. Alors, d'abord, les questionnements qu'on a en écologie urbaine dans notre laboratoire, c'est suite au constat du fait que la végétation, les espaces verts en particulier, apportent un certain nombre de bénéfices aux citadins. En réduisant par exemple l'îlot de chaleur urbain, en participant à la dépollution de l'eau, de l'air, du sol, la prévention des inondations, et puis tout un tas de bénéfices culturels en termes de santé, etc. Et donc notre problématique de recherche était de savoir comment améliorer l'état de la biodiversité en ville pour qu'elle produise ces bénéfices. Et également, comment sensibiliser les acteurs à l'intérêt de préserver la biodiversité en ville. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, on a développé un certain nombre de programmes de sciences participatives, dont certains sont centrés sur la ville. Et effectivement, je coordonne le projet Sauvage de ma rue, qui a plusieurs objectifs. Et j'en profite pour mentionner, parce que ça alimente un peu la réponse à une question de tout à l'heure, qu'on s'adresse également aux gestionnaires d'espaces verts en particulier pour leur faire prendre conscience que les changements de pratiques qu'ils peuvent avoir peuvent avoir une influence bénéfique sur la biodiversité. Et donc, les programmes Propage et Florilège leur permettent de voir comment, en passant d'une pelouse à un système plus prairial, on gagne en nombre d'espèces à la fois végétales, insectes, pollinisateurs, etc. Et donc, le programme Sauvage de ma rue, c'est un programme qui a donc deux objectifs a priori. Un objectif pédagogique, qui est de permettre aux gens qui sont intéressés d'apprendre à reconnaître les espèces de plantes qui poussent dans leur environnement. Et puis, un objectif scientifique, qui est plus de pouvoir récupérer des données sur l'endroit où poussent un certain nombre d'espèces végétales spontanées. Et pour voir de façon un peu plus précise comment les espaces interstitiels jouent un rôle dans la dynamique de la végétation dans les villes. Alors le protocole, il paraît très simple. Les gens doivent choisir une rue, reconnaître les espèces qui y poussent. Alors ça, c'est quand même pas facile, hein, ça demande un petit entraînement. Ils doivent ensuite en faire la liste en notant dans quel type d'interstice urbain elles se trouvent. Et puis de saisir les données en ligne grâce à un logiciel convivial qu'on a créé avec notre partenaire Tella Botanica. Alors on a beaucoup de monde qui répond. Au début, c'est parti tout doucement. Et puis des collectivités, des écoles, des associations se sont emparées du programme pour sensibiliser les gens et pour les initier à la botanique. Et donc on reçoit des données en très grand nombre. Et alors, en faisant un peu de biblio, on s'est rendu compte que Joseph Valot, dont on a parlé tout à l'heure, avait participé au programme Sauvage de ma rue il y a 130 ans, puisqu'il a fait exactement, il a suivi exactement le protocole qu'on avait proposé. Et donc, il s'est concentré sur le Paris de 2008, enfin, après avant l'annexion des communes qui sont juste autour, donc dans les limites bleues là, de cette carte qu'on ne voit pas très bien. Et donc, il nous dit dans son ouvrage qui a été présenté tout à l'heure, « J'ai été conduit, dans le but de rechercher d'où proviennent les plantes de ces ruines, et donc il parlait des ruines du Conseil d'État, à dresser la liste des plantes qui croissent spontanément au centre de Paris. Ce travail étant une flore des rues, doit, pour répondre à son titre, être limité absolument aux voies publiques. » Donc, c'est exactement ce qu'on a fait dans le programme « Sauvage de ma rue ». Par la même raison, je me suis limitée à l'ancien Paris pour ne pas arriver aux quartiers non encore bâtis où se trouvent de véritables prairies dont la végétation n'offre aucun intérêt au point de vue où je me suis placée. Donc il a vraiment fait la même chose que nous, ou on a fait la même chose que lui. Et donc là, j'ai remis sur une carte du Paris actuel les points où il avait fait ses inventaires. Donc en rouge, c'est sur les quais. En jaune, c'est dans les rues. Et avec mes stagiaires, nous sommes retournés sur l'ensemble de ces points et nous avons fait des inventaires avec le même protocole. Alors, les résultats sont les suivants. En termes de richesse spécifique, c'est-à-dire de nombre d'espèces vues dans chaque rue et sur l'ensemble de ces prospections, Joseph Valot avait vu à peu près 192 espèces. Je dis à peu près parce que le système de nomenclature a évolué au cours du temps, donc on n'a pas tout à fait les mêmes espèces. Certaines sont devenues plusieurs espèces ou inversement se sont regroupées. Et surtout, il a quand même regardé il a aussi mis les arbres. Et moi, je pensais que si on parlait de flore spontanée, on ne pouvait pas aller jusqu'aux arbres qui sont quand même pas forcément très spontanés en ville. Voilà. Et nous, on en a trouvé 300, enfin, mes stagiaires en ont trouvé 365, dont 90 se trouvent à la fois dans ces listes et dans les nôtres. Alors, vous voyez que la richesse est plus élevée dans notre cas que dans le sien. Peut-être qu'il n'a pas été aussi loin dans les inventaires que ce que nous, on a fait, aussi exhaustif. C'est difficile de dire, on n'était pas avec lui. Très certainement, comme l'a dit Charles-François tout à l'heure, le désherbage était beaucoup plus avancé, beaucoup plus complet à cette époque que maintenant. Alors, ce que je dois dire quand même, c'est qu'on a 90 espèces en commun, mais parmi les 275 que nous, on mentionne, certaines et beaucoup d'entre elles existaient déjà à Paris à ce moment-là. Et dans les 102 que nous, n'avons pas retrouvées, ces plantes, pour beaucoup, elles existent également encore dans Paris, mais simplement, on ne les a pas trouvées dans les rues qu'on a inventoriées. Et je suis en train de faire ce travail de rechercher dans la flore, dans toutes les flores des conservatoires botaniques, si ces 102 lesquelles parmi ces 102 espèces existent encore ou ont vraiment réellement disparu de Paris. Alors, quand on regarde les 10 espèces les plus fréquentes, parce qu'il y a des espèces qu'on trouve de façon tout à fait anecdotique, pour ce qui est de Valot, il a trouvé en premier lieu la plus abondante, c'est le pâturin annuel, puis la capsule boursa pasteur, les pissenlits, deux espèces d'orties, le mouron blanc, le censon commun et deux poacées, donc le brome stérile et le régras anglais. Et enfin, la renouée des oiseaux. Voilà les 10 espèces les plus fréquentes, les plus fréquemment citées par Valot. Parmi celles que nous, on a pu trouver, il y en a 4 qui sont aussi dans notre top 10. Donc, la renouée des oiseaux, les pissenlits, mouron blanc et pâturin annuel. Nous avons en outre trouvé en grand nombre les érigérons. Alors, on va dire exotiques parce que il est difficile de distinguer celui qui vient du Canada, de Sumatra, etc. Le laitron maraîcher, le plantain majeur, la pariétaire de Judée, qui est extrêmement fréquente et que lui mentionne beaucoup moins, l'oxalide corniculé, l'orge des rats, et voilà donc le panel des espèces qui sont beaucoup trouvées dans nos rues, soit en son temps, soit dans le nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces données-là? On a utilisé les données, donc l'ensemble des données par station, pour établir un arbre de ressemblance. Et quand des donc là vous avez la totalité des quais qui ont été inventoriés. Que je me trompe pas, je crois qu'en rouge c'est les quais de Valo et en noir c'est les nôtres. Et vous voyez que on les distingue bien, c'est-à-dire que le cortège floristique a quand même changé, même si on a beaucoup d'espèces en commun, on a une vraie différence qui se voit bien sur l'arbre, avec des branches qui sont exclusivement ensemble de les branches de 2021 et celles de Valo. Donc la flore a quand même bien évolué. De la même façon, quand on regarde les rues, à part une rue qui se retrouve la flore d'une rue actuelle qui se retrouve parmi celle de Valo, mais sinon on a quand même une bonne distinction entre ses inventaires à lui et les nôtres, donc les flores, l'abondance des différentes espèces a quand même bien changé. Pour ce qui est de la présence d'espèces exotiques, alors ce qu'on appelle espèces exotiques par chez nous, c'est lorsqu'elles sont arrivées en France depuis 1492. Du temps de Valo, il y en avait à peu près 11% de la flore qui était exotique. Nous, maintenant, 28%. Donc, évidemment, c'est les échanges nombreux, commerciaux, les gens qui voyagent, les voitures, etc., qui apportent des espèces d'ailleurs et qui, du coup, renforcent cette proportion d'exotiques. Alors ensuite, on a voulu s'intéresser à la préférence thermique des espèces. Une espèce, elle est plus ou moins inféodée, elle a une aire de répartition, et cette aire de répartition, elle dépend un peu de ce que les plantes, de la sensibilité des plantes à la chaleur ou au froid. Et pour caricaturer un peu, les Delveis, elle a une préférence thermique qui est basse. Elle vit dans les montagnes là où il fait relativement frais. Et donc, certains auteurs, un naturaliste s'appelle Ellenberg, a travaillé sur ces bases de données et il a attribué une note de 1 pour les plantes qui aiment les milieux froids. Et là, j'ai mis l'olivier. L'olivier a une note de 9 parce que c'est une plante qui préfère les milieux chauds. Et donc, on a des bases de données avec toutes les plantes qui sont répertoriées et cette note, cette préférence thermique qui leur est attribuée. Et à Paris, à peu près toutes les plantes ont une préférence qu'on trouve ici. Elles ont une préférence thermique qui est comprise entre 4 et 6. Donc, c'est des plantes qui aiment les milieux tempérés. Et donc, si on utilise cette préférence thermique pour calculer la moyenne de l'ensemble des plantes qui poussent dans les rues de Paris, on peut établir une comparaison entre la préférence thermique des plantes du temps de Valo et la préférence thermique des plantes qu'on a dans nos rues à nous, pondérées par leur abondance. Et on voit qu'entre 1883 et 2021, on a bien une augmentation de la préférence thermique des plantes. Donc, la flore actuelle, on montre par ce calcul que la flore actuelle préfère des températures plus élevées que la flore d'il y a 130 ans. On a fait la même chose pour d'autres types d'affinités et on a regardé en particulier si les plantes de nos jours préfèrent les milieux des sols plus acides ou des sols plus alcalins. Et donc, on a fait exactement le même calcul que pour les préférences thermiques. Et on se rend compte que, du temps de Valo, les espèces avaient une préférence pour des sols plus acides ou maintenant plus alcalins. La comparaison entre les deux périodes. On a fait la même chose pour la préférence, pour l'affinité à l'azote. Parmi nos plantes, il y a la luzerne qui supporte des sols très peu azotés et la grande bardane qui, par contre, pousse, comme les orties, etc., sur des sols qui sont riches en nitrates. Et donc, la différence entre les deux périodes, on a des plantes, nous, actuellement, qui sont moins exigeantes en nitrate que du temps de Valo. Ça veut dire probablement que les sols actuels sont moins riches en nitrate que du temps de Valo. Et pour ce qui est de la dépendance aux pollinisateurs, alors nos plantes là, on leur donne pas une note, mais on regarde à quel point elles sont dépendantes des pollinisateurs. Par exemple, le pâturin annuel n'a pas besoin de pollinisateurs pour donner des graines. En revanche, l'Achillée millefeuille a besoin de pollinisateurs. S'il n'y a pas de pollinisateurs, elles ne peuvent pas donner de graines. Et il y a des espèces qui sont intermédiaires, qui donnent des graines s'il y a des pollinisateurs, mais arrivent à en donner quand même s'il n'y en a pas. Donc, on peut leur attribuer un pourcentage de dépendance aux pollinisateurs et faire de la même façon que tout à l'heure, des moyennes sur l'ensemble des plantes des trottoirs. Et là, on ne trouve pas de différence significative, les statistiques ne montrent pas de différence significative entre la dépendance des plantes actuelles aux pollinisateurs par rapport à Valo. Alors, grâce à toutes ces données et ces calculs statistiques, on peut en tirer quelques enseignements. On peut d'abord supposer que l'environnement s'est profondément modifié entre la ville de Joseph Valo et la ville actuelle, parce que, évidemment, les plantes suivent les différences d'environnement qu'elles trouvent. Si des plantes ont besoin de sol acide et qu'il n'y a pas de sol acide, elles disparaissent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la différence d'environnement que trouvent les plantes à l'heure actuelle ? C'est que d'abord, actuellement, probablement, la nature est moins maîtrisée, et c'est ce que disait tout à l'heure Charles-François. Donc, après Haussmann, ce courant hygiéniste a fait que les trottoirs étaient très bien nettoyés, qu'on ne supportait pas trop les mauvaises herbes, et donc on avait moins d'espèces à ce moment-là sur les trottoirs. Peut-être une pression aussi due au piétinement. Les gens se promenaient, enfin, étaient beaucoup plus à pied qu'on l'est maintenant peut-être. Depuis la loi Labbé, 1er janvier 2017, et la loi zéro phyto, on laisse beaucoup plus les espèces pousser sur les trottoirs parce que ça coûte cher de désherber quand on n'utilise pas des produits de synthèse. Pour ce qui est des sols plus alcalins, on sait que l'usage du béton a tendance à rendre plus basiques les sols. Donc c'est peut-être la raison qui fait que nos plantes actuelles préfèrent des sols plus alcalins. Le climat plus chaud, là vous avez l'évolution des températures à Paris depuis 1900. Il est indéniable que la température augmente régulièrement, enfin même de plus en plus, et que ça se traduit dans la composition des communautés végétales qu'on trouve dans les rues. Et puis, alors, un gros aspect très important, c'est l'abandon du transport hippomobile. D'abord, les chevaux apportaient pas mal de crottins, et donc enrichissaient certainement les sols. Alors, on était un peu étonnés de ce résultat, parce que les pots d'échappement, les gaz d'échappement apportent aussi du nitrate, mais peut-être moins quand même que les chevaux. Ça, c'est une des raisons qu'on a pu évoquer. La flore, elle a été aussi modifiée par l'apport d'un certain nombre d'espèces exotiques qui se sont introduites à Paris. Un des exemples, c'est le Sénson du Cap, qui est arrivé dans la capitale dans les années 1990. Et qui s'est répandu très facilement un peu partout. Et puis, on a perdu d'autres espèces, des plantes maraîchères, le fait qu'il y ait eu beaucoup de jardins, de potagers dans Paris et particulièrement autour des endroits où on a fait nos inventaires. Bon, on a perdu un certain nombre d'espèces parce que dans Valo, on trouve des lentilles, des asperges qui poussaient sur les trottoirs. Alors, pas en grand nombre, mais de façon accidentelle, il y avait ces espèces qui étaient mentionnées et que pour nous on les a pas vues. Et puis des plantes fourragères qui ont dû être s'échapper des bottes de foin enfin qu'on trouve beaucoup moins actuellement. Voilà. Donc, pour aller plus loin, on aimerait bien étendre cette étude à d'autres flores plus anciennes. Donc, par exemple, celles qui ont été mentionnées ce matin, 1861, c'est pas bien avant, c'est pas beaucoup avant Valo, mais peut-être la flore de Tournefort, qui elle date de 1648. Mais j'ai pas encore mis le nez dedans. Et effectivement, je sais pas s'il y a beaucoup de mentions de rues. Enfin, ça va être difficile de refaire les mêmes inventaires. Mais on voudrait aussi regarder un peu ce qui se trouve dans la littérature littéraire, on va dire pour le coup, et essayer de chercher dans les romans du 19e siècle s'il y a mention de plantes, ou même des romans même encore avant. Je ne sais pas, c'est une partie du projet de recherche qu'on a en commun dans le cadre de ce programme, et voir un peu si on peut en tirer des enseignements sur les modifications de végétation au cours du temps. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci pour la restitution des résultats de cette étude. Alors, je trouve intéressant de voir comment les plantes nous parlent de la ville dans leur langage. Elles nous disent quelque chose du milieu, du sol, du climat, etc. Ce sont effectivement des plantes indicatrices du milieu. Je trouve tout à fait intéressant cette approche. C'est presque... On parle souvent on associe souvent les plantes à fleurs en particulier au langage poétique, mais alors elles ont un langage à elles, si je puis dire. Enfin, quand on sait les faire parler, voilà, elles nous parlent de chimie, elles nous parlent de physique, elles nous parlent de climat et de facteurs écologiques.
Ben, en fait, elles s'adaptent, hein, plus que c'est passif, hein, comme réponse, mais bien sûr, effectivement, elles s'adaptent à l'environnement et donc elles traduisent en fleurs ce qu'elles subissent dans l'air, dans le sol, dans l'eau, etc., et comme température, tout à fait.
Donc j'imagine qu'il y a des questions dans la salle.
Bonjour, merci beaucoup. Je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, parce qu'elle s'adapte à ce qu'il y a dans l'air, dans l'eau, comme température. Dans votre présentation, vous avez surtout mis en avant le sol, je pense, c'est ce qui ressort. La température, donc le climat, on va dire le climat urbain. Est-ce que vous arrivez à tracer, à utiliser ces plantes comme indicateur de la composition chimique de l'air ou pas? Ou est-ce que c'est trop éloigné? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire quelque chose de cet ordre?
Alors, les plantes, elles ont essentiellement besoin de gaz carbonique pour faire leur photosynthèse, un petit peu d'oxygène aussi la nuit quand elles respirent. À part ça, ce qu'il y a dans l'air, tant que c'est enfin, tout ce qui est polluant de l'air, par exemple, tant que c'est dans des quantités, on va dire, raisonnables, ça va. En fait, je pense que... Alors, quand il y a des pics d'ozone, on peut voir des marqueurs sur les feuilles. Il n'y a pas beaucoup de polluants que nous supportons, qu'elles ne supportent pas. Donc, on est plus, nous, limitants, je pense, que les plantes elles-mêmes, même si elles peuvent avoir des manifestations, des nécroses, des choses comme ça. Sur l'air, je crois qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de modifications qui peuvent être mises en avant. Voilà. Merci.
Merci. J'avais une question. Est-ce que vous avez fait une analyse finalement des sites biologiques des différentes espèces?
Alors, ouais, par exemple, comparer les espèces annuelles et...
Les annuelles, oui. Vivaces, pérennes, enfin, oui.
On l'avait fait. On ne voyait pas de différence vraiment très forte. J'ai plus les chiffres en tête. Enfin, en principe, il y a toujours beaucoup d'annuels, hein, dans les rues, parce que comme on a tendance à beaucoup désherber, c'est celles qui arrivent et qui c'est plutôt des espèces très pionnières qui peuvent s'implanter. Franchement, je me souviens plus exactement, mais effectivement, c'est un truc intéressant. Alors, en fait, plus que par cette comparaison-là. On regarde ça sur l'abondance dans les pieds d'arbres. On a un programme de suivi de la flore des pieds d'arbres depuis 2009. Tous les ans, on fait les inventaires de 1500 pieds d'arbres dans le quartier de Bercy. Et là, on voit des choses beaucoup plus fines, des renouvellements de population ou même des colonisations, c'est plus facile à voir que sur 130 ans d'intervalle.
Une question aussi sur le 19e siècle, puisque tu parles de pieds d'arbres. Est-ce que Valo indique où il trouve ces plantes, plutôt
oui.
au pied des arbres ou ailleurs ?
Eh ben, il en trouve partout parce qu'il cherche partout. Mais il mentionne exactement dans quel interstice il trouve ces espèces. Alors, il parle des pieds des arbres, il parle des pavés. Oui. Il mentionne 5 types d'espaces dans lesquels il peut trouver les plantes, sur des murs, etc.
D'accord.
Et effectivement, il dit dans les pieds d'arbres. La différence entre Valo et nous sur peut-être la façon de récupérer les données, c'est que lui, il nous donne une espèce et la liste des rues dans lesquelles il les trouve et il mentionne quand c'est dans les pieds d'arbres. Et nous, on fait un peu le contraire. On prend la rue et on inventorie toutes les espèces qu'on trouve dans la rue. Alors après, on peut présenter les choses de la même façon. C'est juste la petite différence qu'il y a. Mais du coup, on a un peu du mal à savoir combien il trouve d'espèces par pied d'arbre, par exemple.
Oui.
Ça, nous, on le sait, mais lui, il ne l'a pas mentionné.
Alors évidemment, nous n'avons plus beaucoup de pavés, mais nous avons peut-être de nouveaux lieux, pour le coup, où nous pouvons trouver des plantes.
Il y a quand même...
par rapport au 19e.
Ah, il y a quand même encore des pavés. Et puis surtout, les plantes, elles poussent entre les pavés, mais elles poussent aussi dans les interstices de l'asphalte, du bitume. Et finalement, c'est un peu les mêmes. C'est celles qui sont suffisamment petites et costauds pour supporter le piétinement.
Et alors, disons, globalement, du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des différences très, très importantes ou non pour ce qui est de la localisation entre le 19e et l'époque contemporaine ?
Je pense qu'il y a tout un cortège qui est toujours le même. C'est des plantes qui s'accrochent et qui subissent les modifications avec courage et qui restent là. Elles sont suffisamment costauds pour supporter. Après, les lentilles, les asperges, elles ont complètement disparu de notre centre-ville. On ne les retrouve plus du tout. Il y a quand même aussi des modifications qui sont assez visibles.
Mais pour ce qui est des lieux, donc pavés, oui, il en reste un petit peu. Mais est-ce qu'il y a de grosses différences de ce point de vue-là ?
Ben, pas tellement. Hein. D'ailleurs, j'ai cherché des gravures qui essayaient de montrer la différence entre maintenant et jadis. On trouve beaucoup de cartes postales de la fin du 19e siècle. Et quand on regarde les cartes postales, on voit à rien. Il n'y a pas de plantes, il y a les arbres, mais sur les trottoirs, c'est vraiment nettoyé. Une autre anecdote, c'est que j'ai un collègue qui a travaillé sur le fleurissement des balcons. Il regarde sur les gravures la différence qu'il y a entre le fleurissement des balcons dans le temps et maintenant. Et là, par contre, il y a une grosse différence. On fleurit beaucoup plus, nous, que ce qui se faisait au début du XXe siècle ou même... au 19e siècle. Mais sinon, c'est très difficile de savoir exactement où... Enfin, non, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y en, a, il y en avait moins, je dirais.
Je voudrais te faire réagir un peu sur une réflexion que je me faisais en t'écoutant. C'est en faisant le parallèle, en fait. Parce que là, tu fais le parallèle entre le Paris de Valo et le Paris d'aujourd'hui. Alors moi, j'aurais envie de faire un peu le parallèle entre Valo et toi, sans être impertinent, et juste pour te faire réagir, c'est-à-dire, il y a quand même des points communs, c'est-à-dire déjà dans l'historicité, l'historicisation à la fois de Paris et de sa végétation. Donc Valo, il commence par une approche un peu érudite de l'histoire de Paris, ce qu'on sait sur le Paris du XVIIe siècle, comment ça a évolué jusqu'à lui, etc. Et l'évolution à la fois de la morphologie urbaine et de sa végétation, il fait des hypothèses. Pour arriver à l'idée qu'il y a plus de diversité. Et là, donc là, je verrai déjà un premier parallèle entre ce que ta démarche et puis la sienne. Mais surtout, il y a un autre truc qui me frappe, c'est-à-dire que quand on regarde Valo, vraiment très marrant avec ce personnage de bon, en plus d'alpiniste, donc là il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais c'est l'énorme occultation volontaire, méthodologique dans son propos du contexte politique, c'est-à-dire année 1880, on est dans les ruines de la Commune, donc c'est vraiment un moment de construction très lente et difficile de la République, avec un souvenir humiliant, et, enfin une mémoire très très qui se matérialise dans l'espace d'affrontements très très durs à Paris. Et donc il va approcher un objet aussi sensible politiquement que le Conseil d'État uniquement d'un point de vue botanique. Jean-François, il parlait de botanique le système. Là.
C'est pas moi qui parlais ça.
Non mais j'ai noté aussi, hein. Ça c'est vrai. Oui, oui, moi aussi.
Il y a une occultation méthodique et même méthodologique en fait du politique, et pourtant il est au cœur du politique parce qu'il prend ces ruines du Conseil d'État, donc le cœur de l'État, du droit administratif, donc en plus le droit le plus autoritaire, et pour le regarder d'un point de vue uniquement botanique. Donc, et alors du coup, toi, justement, j'aurais voulu te faire agir sur le contexte politique dans lequel tu fais ces recherches, parce que il y a un contexte politique très fort.
Oui, tout à fait.
Tu parlais du réchauffement climatique local et global, et puis aussi les politiques urbaines d'adhésion finalement à un système par de nouveaux rapports avec le végétal.
Voilà. Ouais. Alors c'est extrêmement intéressant. Moi, on a pas souvent l'occasion de faire des travaux un peu réflexifs sur ce qu'on fait, et quand on a le nez dans les statistiques, c'est un défaut qu'on a en écologie, mais du coup ça me permet d'y réfléchir deux minutes là. Alors d'abord je me trouve rien de commun avec Valo, d'abord parce que c'est un vrai naturaliste alors que pas moi. Moi je suis pas botaniste, hein, je viens de la biologie des populations. J'ai appris à reconnaître les espèces qui poussent dans les villes, mais je suis pas botaniste, je le revendique pas du tout. Ça serait vraiment usurper une compétence que je n'ai pas. Alors Valo, c'était quand même quelqu'un dont on dit, hein, j'ai regardé un peu sa biographie, c'est quelqu'un qui vivait, qui était riche et qui vivait de ses passions, qui était naturaliste. Donc il a fait beaucoup de choses sur le Mont Blanc parce qu'il était passionné par le Mont Blanc. Et c'est vrai que ce travail sur Paris est tout à fait étonnant parce que ça cadre pas du tout avec le reste de ce qu'il fait. Mais comme tu dis, utiliser le Conseil d'État pour voir les petites plantes, c'était être peut-être un peu, pas du tout engagé politiquement, ou alors au contraire très très provocateur, je sais pas. En tout cas, moi, je pense que, alors nous pour le coup, et par le biais des sciences participatives et puis les engagements qu'on a au laboratoire dans la transition écologique, notre travail, il est très ancré politiquement, c'est-à-dire qu'on sait beaucoup, on essaye d'influencer, j'ai pas peur de le dire, hein, les politiques sur l'abandon des produits phytosanitaires, la lutte contre le changement climatique, et modifier la ville, on cherche à modifier la ville pour qu'elle soit plus agréable à vivre pour nos concitoyens. Donc là, pour le coup, il y a une arrière-pensée, c'est indéniable, hein, quand on fait les sciences participatives, quand on va auprès du grand public pour leur montrer des objets de nature, c'est aussi pour leur faire accepter une reconquête de la nature dans les villes. Et d'ailleurs, il y a certaines collectivités qui nous demandent de participer leur ville à Sauvage de Maru pour que l'abandon des produits phytosanitaires soit un peu mieux accepté et qu'on ait moins de remontées négatives des plaintes dans les mairies. Et là, on est aussi en train d'essayer de travailler avec Paris, mais j'ai du mal à récupérer les données, alors que Paris était demandeur. Ils ont un programme qui s'appelle « Dans ma rue », je crois. Quand les Parisiens voient des choses qui les dérangent sur les trottoirs, ils doivent prendre une photo et les envoyer à la ville. sur le site. Et donc, ils ont récupéré un nombre de photos extrêmement importantes. Et moi, j'avais envie de regarder qu'est-ce qui, en matière de biodiversité, dérange les gens. Alors, je vous dis tout de suite, je connais un petit peu le résultat, malheureusement, parce que on a eu l'occasion de voir quand même quelques photos. C'est les pigeons morts, les rats, c'est des choses comme ça, et des pieds d'arbres pas propres. Et pas propre, ça veut dire qu'on n'a pas été désherbé ou voilà. Mais bon, je voudrais voir plus et on n'arrive pas à les obtenir. On ne sait pas pourquoi. Il y a un blocage qui fait qu'on n'arrive pas à obtenir ces photos. Mais c'est un des projets qui nous intéresse aussi, faire le lien entre saleté et biodiversité. Et voilà. Donc bon, j'ose espérer que mon travail servira plus, sera plus repris politiquement que ce qu'a fait Valo, mais d'un autre côté, puisqu'on l'utilise, on l'entraîne un peu dans notre histoire. Mais merci pour cette réflexion.
Donc, merci encore.